Nous continuons notre périple dans les images et paraboles que le Seigneur a données au travers de l'Évangile. Et nous avons vu quelques grandes paraboles, mais il y a parfois, au détour de l'enseignement du Seigneur, des images qui sont ainsi données, des choses souvent très courtes, mais qui veulent dire, vous le savez, beaucoup. Alors on va lire un texte qui est quand même un peu long, mais qui est important parce qu'en fait, il traite, et c'est en fait quatre petites histoires qui, en définitive, traitent le même problème, hein, la même problématique. Donc, on va voir ensemble, c'est la tradition des anciens ou la vie. Marc, chapitre 2, verset 15, jusqu'au chapitre 3, verset 6. Marc chapitre 2, verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, Matthieu, qu'il avait appelé au bureau des péages, vous vous souvenez, beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi ?» Et nous avons là une des premières questions, et vous allez voir qu'au cours de cette lecture, quatre questions vont être posées. Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils ? » Deuxième pourquoi. Pourquoi ? Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et les outres et le vin sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi, encore une fois, le troisième, font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, quand il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui ? » Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus entra de nouveau à la synagogue, et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche, c'est-à-dire paralysé. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu !» Puis il leur dit, « Est-il permis ?» Et là, la quatrième question, ce n'est pas les gens qui la posent, c'est Jésus qui la pose. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends ta main !» Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Ainsi, nous avons trois questions des religieux, parce que c'est vraiment le fond du problème, cette opposition avec la tradition, tradition religieuse, tradition des anciens. Trois questions donc de ces religieux, une question de Jésus, quatre réponses sous forme de parabole. Et je m'expliquerai tout à l'heure. Mais c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut suivre simplement la tradition des anciens ou vivre la vie de Dieu en toutes circonstances? C'est là le vrai problème. Est-ce que nous sommes amenés les uns et les autres à vouloir simplement suivre parce que c'est comme ça que ça s'est fait, ça s'est toujours fait comme ça, et il faut que ce soit fait comme ça? Et on peut vite dériver, vous savez. L'histoire de l'Église est pleine de ces exemples malheureux. Où parfois, on est beaucoup plus attaché aux choses anciennes, aux lieux, parfois aux chaises, eh oui, aux objets, aux formes. Ah oui, mais je ne comprends pas, pasteur, parce que là, vous avez fait ça avant ça, et d'habitude, on fait ça avant ça. Ça existe. Et c'est un peu si dommage, parce que je crois que le but du Seigneur, c'est pas qu'on vive dans la pagaille, dans le désordre, bien entendu. Parce que le Seigneur condamne sérieusement le désordre. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on vive sa vie. Et l'accent dans l'Évangile est mis sur la vie que Dieu met en nous. C'est-à-dire qu'on peut faire tout comme il faut, pas un poil qui dépasse, tout est bien, impeccable, mais si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, ça ne sert à rien. C'est ça le problème. Mais l'être humain, par nature, est attaché aux traditions. On a toujours fait comme ça, et parfois les traditions familiales, on a toujours fait comme ça. Chez nous, on fait comme ça. D'accord, mais est-ce que ce que tu fais comme ça, c'est en accord avec ce que Dieu te demande? Et puis, surtout, est-ce que dans ton cœur, il y a vraiment la vie de Dieu? Et on voit, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, par exemple, à quel point la vie de Dieu s'est manifestée d'une façon tellement forte, tellement puissante, qu'en fait, elle a renversé tout. Ça a créé plein de problèmes, plein de tensions, mais aussi tellement de belles choses. Tellement de choses extraordinaires, parce que dès qu'il y a la vie de Dieu quelque part, il y a une action puissante de la part du Saint-Esprit, et il se passe des choses magnifiques, des conversions, des guérisons, des transformations, des vies changées, nouvelles, gloire à Dieu, c'est ce qu'on veut. Et c'est l'enseignement du Seigneur Jésus que nous avons là devant nous. Alors on va revenir un petit peu à ces questions. Pourquoi mange-t-il, boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Les publicains, je rappelle, c'était ces gens qui avaient une charge de péager. Les Romains levaient des impôts, on dit même que, il y a déjà, hein, on dit même que ça correspondait, les impôts entre ce qu'on versait aux Romains, ce qu'on versait pour le culte, ce qu'on versait, ça représentait à peu près 40% des revenus. C'est énorme. 40%. Et bien sûr, comme en général on n'aime pas payer les impôts, hein, que celui qui aime lève la main, Comme en général, on n'aime pas, bien sûr, ces gens-là, en plus, ils avaient acheté cette charge. Et ils se remboursaient, bien sûr, sur les gens, en augmentant légèrement, pour les plus honnêtes, ce qui était réclamé. Et puis, comme en plus, c'était quelque chose qui venait de la part des Romains, des païens, c'était bien sûr considéré comme vraiment quelque chose de collaboration, et c'était, donc pour les gens pieux, religieux de l'époque, c'était absolument inadmissible. En plus, ces juifs fréquentaient donc des païens, voire mangeaient avec eux, les fréquentaient, donc avaient parfois les mêmes pratiques, et bien sûr, tout cela créait beaucoup de tensions, de difficultés et de problèmes. Alors, la réponse de Jésus, eh bien, on la connaît, on l'a lu ensemble. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. En fait, quand Jésus va manger avec ces gens-là, ce n'est pas simplement pour faire un bon repas, ce n'est pas simplement pour dire « on va faire une fête », mais le Seigneur, derrière, a quand même une idée. C'est que quelque part, il a quelque chose à leur dire et à leur communiquer. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Parfois, nous pouvons nous laisser aussi gagner par la manière de faire des gens qui nous entourent, par leur façon d'être, par leurs idées, leurs conceptions, voire leur style de vie. Et la question qu'on pourrait se poser dans, je dirais, les échanges que nous pouvons avoir avec ceux de l'extérieur, les amis, les collègues de travail, le voisinage, c'est qui influence qui. Je ne crois pas que quand Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie, il allait attraper une mauvaise vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois le contraire. Je crois que ceux qui vivaient une mauvaise vie, au contact de Jésus, étaient changés et transformés. Et on peut en avoir pour preuve l'histoire de Zachée, qui était un des chefs de ces péagers, c'est-à-dire quelqu'un qui était encore à un grade supérieur, et qui va dire, « Eh bien, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends... » C'est pas mal, hein? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Si j'ai fait tort, déjà, il faut le convaincre qu'il a fait tort. Ce qui, déjà, n'est pas une simple... c'est pas quelque chose de très simple. Si j'ai fait tort à quelqu'un, ben je vais lui rendre 4 fois. Puis, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Quel changement, hein? Pour quelqu'un qui était considéré comme étant plutôt quelqu'un qui prenait aux pauvres et se servait sur eux. Mais il dira ça après sa rencontre avec Jésus. Et après un repas avec Jésus. On aurait bien aimé avoir quelques caméras cachées, quelques micros ici et là. Qu'est-ce qui s'est dit? Comment les choses se sont passées? On n'en sait rien. Mais on sait au moins une chose, c'est que ce gars-là, quand il est sorti de ce repas avec Jésus, il est sorti changé et transformé. Gloire à Dieu! Et je crois que ce serait vraiment fort si à chaque fois que nous sommes en communion avec quelques personnes de notre entourage et qui ne sont pas chrétiens, lorsque nous sommes là avec eux, il y ait une telle influence. Voyez-vous, dans le regard de Jésus, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de condamnation comme il y en avait au niveau des religieux. Le Seigneur sait que ces gens-là ont besoin d'une transformation. Ce sont, dira-t-il, comme des malades. Alors c'est quelque chose, si vous dites ça aux gens de l'extérieur, ils ne vont pas apprécier. Ils ne vont pas apprécier. Seulement, il y a des malades qui sont malades physiquement, mais il y a aussi des gens, et beaucoup, qui sont malades intérieurement, spirituellement, et qui ont besoin de connaître une vraie guérison dans leur cœur. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Et puis, après tout, ces gens religieux croyaient qu'ils se portaient bien. Vous connaissez la réflexion du docteur Knox, qui disait que celui qui est bien portant n'est qu'un malade qui s'ignore. Ça fait un peu froid dans le dos, hein? Et puis, peut-être qu'on peut être bien portant maintenant, et demain, on ne sait pas. Il y a des gens qui se croient bien portants. Oh, combien j'ai entendu cette réflexion. J'ai pas besoin. Parce qu'ils n'en savent rien, en fin de compte. T'as pas besoin. En fin de compte, tu ne sais pas ce que le Seigneur peut apporter à ta vie, à ton cœur, à ton âme. Et quand on a goûté, comme dit la Bible, que le Seigneur est bon, eh ben on a envie d'y goûter à nouveau. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Je ne suis pas venu appeler des justes. En fin de compte, le Seigneur, il appelle ceux qui se sentent pécheurs, ceux qui se sentent petits, ceux qui se sentent faibles, ceux qui, en fin de compte, se sentent pauvres en esprit. Heureux, les pauvres en esprit. Ce n'est pas les simples d'esprit, hein. Ce n'est pas ceux qui sont un petit peu, qu'est-ce qu'il faut dire, hein, qui ont un petit peu quelques difficultés neurologiques ou psychologiques. Non, ce n'est pas ça. Ce sont ceux qui sentent leur pauvreté, qui savent qu'ils sont pauvres, qui croient qu'ils ont besoin d'être profondément enrichis par la grâce de Dieu. C'est cela que le Seigneur est venu sauver. Mais tous les orgueilleux, tous ceux qui croient aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin d'un Seigneur, qu'ils n'ont pas besoin d'un Sauveur, qu'ils sont assez grands, qu'on n'a rien à leur reprocher, et que si vraiment Dieu a envie de les juger, normalement, il entre dans le paradis haut la main sans problème. Eh bien, cela risque d'avoir bien des surprises lorsqu'ils seront devant la sainteté de Dieu. La Bible dit que toute bouche sera fermée. Même celui qui a la tchatche, même celui qui a des arguments, en veux-tu, en voilà, ce jour-là. Rien à dire. Parce qu'il se sentira tel que Dieu le voit. Moi, j'ai dit que la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver, c'est de ressentir au fond de notre cœur comment Dieu nous voit. Si ça vous est arrivé, comme à moi, ça m'est arrivé, alors on a la tête par terre, on pleure toutes les larmes de son corps, on se sent misérable, et on sent à ce moment-là à quel point on a besoin d'être sauvé, purifié, lavé par le sang précieux de Jésus. On ne fait pas le fierrot. On ne fait pas celui qui dit « Oh, moi, tout va bien, on n'a rien à me reprocher ». Ce sont ceux qui sont malades, qui sentent le besoin d'un médecin. En général, on ne va pas voir son médecin pour le plaisir, même s'il est très sympathique. On ne va pas voir son dentiste, histoire d'avoir un petit coup de roulette comme ça, histoire de « j'avais rien à faire, tiens, je vais passer par là ». Oh non, en général, non. Hein. C'est quand ça commence à nous gêner sérieusement. Et même parfois, vous le savez, quand on va chez le médecin, on y va parfois à reculons, parce qu'on n'a pas trop envie qu'il nous trouve des trucs qu'on n'aimerait pas qu'il nous trouve. Hein. Je ne connais pas beaucoup de gens qui y vont avec bonheur et avec joie. Mais quand on est malade, alors on sent le besoin impérieux d'être secouru, aidé, soigné. On espère que le médecin sera le meilleur de la terre, qu'il va nous tirer de là. On espère qu'il va nous faire les meilleurs examens, qu'ils vont trouver la solution la meilleure. On va trouver les meilleurs médicaments. Et même si quelqu'un pouvait en inventer pour nous, on applaudirait les deux mains. Voyez-vous ce qu'on est sur le plan de la santé? Parfois, sur le plan de notre âme, on ne l'est pas. On est négligent. On ne veut rien savoir. On ne veut rien écouter. C'est dommage, hein? Alors, je crois que cet avertissement est là pour nous rappeler ces choses si importantes. La deuxième question, c'est pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens, Jean ici, c'est Jean le Baptiste, hein, jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? C'est vrai que dans l'évangile, il y a beaucoup de repas, hein, vous avez remarqué? Beaucoup de gens à table. Ça mange beaucoup et ça boit beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que les pharisiens, eux, jeûnaient, on le sait, au moins 2 fois par semaine. C'est-à-dire un jeûne total, 2 fois par semaine. Pas manger, pas boire, pendant ces 2 jours. Ce qui est quand même considérable. Mais c'était simplement par habitude, d'une façon religieuse. Alors il y avait des bonnes raisons. C'est sûr que l'état du peuple n'était pas terrible. Mais ce qui est terrible, c'est que ces gens-là finissaient par faire les choses parce qu'il fallait les faire. Et même, dira Jésus, ils prennent un air triste pour qu'on les plaigne. Et le Seigneur finira par dire, quand tu jeûnes, tu vas essayer d'avoir bonne mine, hein. Tu vas te parfumer, tu vas te laver, tu vas bien t'habiller, tu vas pas être là à traîner ta peine en disant, oh, c'est terrible, je jeûne. Qu'est-ce que c'est dur? Non. Parce que c'est une question de cœur avec le Seigneur. Alors le Seigneur va dire, la réponse de Jésus, elle est en 3 parties. D'abord, il va leur dire que quand on est dans un mariage, on ne vient pas pour jeûner. Hein? C'est vrai, ça vous avez remarqué. Hein? Quand on va à un mariage, on n'y va pas pour jeûner. Hein? En général, on espère bien que le repas de noces, le repas sera à la fois non seulement copieux, mais surtout de bonne qualité. On se dit qu'on va passer un bon moment à table. Hein? Et il va dire, mais est-ce que les amis du marié vont se mettre à jeûner alors qu'on est en pleine noce? C'est pas possible. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que puisque Jésus, lui, était là, alors qu'il était présent en chair et en os, alors qu'ils étaient en plein dans ce moment extraordinaire où pendant ces 3 ans et demi, l'évangile a été... on n'arrivait même pas à noter tout ce que le Seigneur pouvait faire et toutes les merveilles que le Seigneur pouvait accomplir. Ce n'était pas vraiment le moment et le temps. Mais le jeûne et prière fait partie de l'enseignement de la Bible, et fait partie aussi de l'enseignement de Jésus. Et il dit, quand l'époux sera parti, alors là, ils vont jeûner. Et on sait que, depuis que le Seigneur est remonté au ciel, dans l'Église, c'est une pratique, non pas institutionnelle, ou quelque chose qu'on fait parce qu'il faut le faire, mais un temps particulier de rencontre avec le Seigneur. C'est aussi parce que nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur. Le jeûne, comme la prière d'ailleurs, n'est pas le moyen de faire plier Dieu à nos exigences. Le premier travail de la prière et du jeûne, c'est pas de faire bouger Dieu, c'est de nous faire bouger nous. D'ailleurs, dans la Bible, le jeûne est souvent associé à la repentance, à la prise de conscience des choses qui ne vont pas, à la nécessité de revenir vers le Seigneur. À l'époque, la coutume, c'était de déchirer ses vêtements, de se revêtir de sacs et de cendres. C'est impressionnant, hein ? C'était d'être dans la désolation. Mais plus tard, pas tellement plus tard d'ailleurs, les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu dira, au lieu de déchirer vos vêtements, déchirez votre cœur. C'est-à-dire, ayez un travail sur vous-même, à l'intérieur de vous-même. Parce que vous savez, c'est très facile, hein, on déchire un petit peu son habit dans un coin qui ne se voit pas. Et puis déjà, à la maison, on a préparé tout ce qu'il fallait pour réparer. Hein? Parce qu'il faut faire ça pour les autres. Mais en fin de compte, le cœur n'y est pas. Or, ce que Dieu voudrait, c'est que le cœur y soit. C'est qu'on s'approche de Dieu de tout son cœur. Puis il va dire, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. On peut le faire, ça fait un peu patchwork, hein. C'est un peu à la mode aussi, hein. Chez nous, on en voit quand même pas mal, hein. On essaye de boucher un peu les trous. Parce que c'est vrai que d'avoir parfois un jean tout neuf, ça fait un peu ringard. Hein. Alors, il faut quand même un peu agrémenter. Mais voyez-vous, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Il ne s'occupe pas de nos habits, hein. Vous avez compris. Il dit, on ne peut pas prendre un bout de l'évangile pour le coller à sa vie qui n'a pas été régénérée. L'évangile, ça se prend en entier ou ça se prend pas. C'est cela qu'il nous dit. C'est pas des petits bouts. C'est vrai que si on se met le nez juste sur le petit bout de drap neuf, on dit « Ah, j'ai un habit tout neuf !» Parce qu'on ne voit que ça. Mais si on prend un peu de recul, on voit bien que le reste, il n'est pas si neuf que ça. Hein. Et je rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas des habits neufs si facilement qu'aujourd'hui. Fallait que ça dure. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ? Il nous dit ça, c'est que l'évangile, les choses de Dieu, ça se prend en entier. On ne peut pas découper. Je ne peux pas dire, oh, je fais 80% de ce que Dieu veut. Si Dieu n'est pas d'accord avec ça, et s'il n'est pas content, ah ben quand même. Ce n'est pas des bouts de l'évangile dont on a besoin. C'est de la grâce de Dieu en entier. On a besoin de devenir de nouvelles créatures. Et vous savez, là encore, l'être humain, ce qu'il a envie, c'est de raccommoder sa vie, d'essayer de boucher les trous, d'essayer d'arranger un peu les choses. Oh là, je me suis un peu arrangé dans mon caractère. Oh là, je suis devenu un petit peu meilleur ici. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas de nous améliorer à la force du poignet, on n'y arrivera jamais. Il nous manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours un accroc. Et puis vous le savez très bien, si on essaye de faire ça, à un moment donné, la déchirure, elle est pire. Parce qu'on croit qu'on va tenir, on croit qu'on va y arriver, puis à un moment donné, il y a un accroc plus important, il y a une tension plus importante, et tout craque. Vous savez que l'enseignement de Jésus, c'est de faire de nous de nouvelles créatures. Amen. C'est pas de réparer. C'est pas de chercher à raccommoder un peu notre vieille vie pour essayer de nous améliorer. Et puis, on va passer toute sa vie à chercher à s'améliorer. Oh, on espère qu'à la fin, quand on va arriver au moment de la mort, on aura amélioré suffisamment. Si on fait ça, on a tout faux. On est complètement à côté. On essaye, on fait comme il est dit ici, on essaye de changer une pièce de notre vieil habit. Et ça ne marche pas. Ce sera pire, parce que l'évangile va créer des tensions. Les commandements du Seigneur sont tellement élevés que ça va créer encore en plus des tensions dans notre vie. Et ça nous déchirera encore davantage. Et la troisième réponse que le Seigneur va donner, c'est que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. À l'époque, c'était la manière de garder le vin. C'était des outres en peau de chèvre. La plupart du temps, il paraît que ça se fait encore dans certains pays d'ailleurs. Et ça se gardait. Mais il est évident que le vin nouveau, comme toutes les boissons qui se transforment, il y a une partie du sucre qui se transforme en alcool, eh bien, il y a un travail, il y a une fermentation, ça bouillonne, et en même temps, ça donne de la pression qui finit par faire exploser tout. Si l'outre, la barrique, le récipient n'est pas suffisamment solide pour tenir à cette pression. Et là encore, on voit bien que ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pas ce qui est extérieur. On peut avoir la meilleure outre possible. On peut avoir la plus belle, la plus décorée. On peut peut-être même l'avoir fait avec tellement d'amour et que vraiment, ça sort de l'ordinaire. Mais c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Et on voit encore une fois de plus combien le Seigneur met l'accent sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est le vin nouveau. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que le Seigneur, son premier miracle, il a changé de l'eau en vin. Parce qu'il y avait là tout un symbole qui était aussi extrêmement important. La troisième question, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? Alors, vous savez, le sabbat, pour les Juifs de l'époque, et encore aujourd'hui, c'est encore plus terrible. C'était tout un tas de réglementations qu'on avait ajoutées aux lois déjà assez précises, mais assez fortes aussi, de la parole de Dieu. Et on en avait déduit toutes sortes d'enseignements. Par exemple, on avait conclu et on avait décidé, les gens religieux avaient dit que cueillir des épis un jour de sabbat, c'était comme si c'était moissonné. Or, dans la Bible, dans la loi de Dieu, il était autorisé de cueillir des épis. Ce qu'on n'avait pas le droit, c'était de moissonner le champ du voisin ou de celui dans lequel on passait. Mais si on passait à proximité, la loi autorisait qu'on pouvait cueillir des épis, des grains, les manger et se nourrir, pourvu que ce soit simplement à la main. Mais les religieux en avaient déduit que... Cueillir, c'était comme moissonner. Et moissonner, c'était absolument interdit, c'est un travail. On avait fait la même chose pour plein d'autres choses de la vie courante. Par exemple, il était interdit de manger un œuf pondu le jour du sabbat, parce que la poule, elle avait travaillé. Ça nous paraît un peu... absolument extraordinaire. Non, mais c'était comme ça. Il y avait toutes sortes de restrictions. Et bien sûr, comme les disciples de Jésus font cela, ça choque. Pourquoi est-ce qu'ils font ce qui n'est pas permis ? Ils se coulent pas dans le moule. Pourquoi ils font ces choses-là ? Et là, Jésus va prendre... non pas une histoire, comment dirais-je, de la vie courante, une parabole, mais il va faire une parabole avec une histoire que ces gens-là connaissaient, une histoire biblique. Vous savez que les histoires de la Bible sont aussi pleines de paraboles pour nous, plein d'enseignements pour nous. Et il va prendre l'histoire de David qui fuit, qui s'en va. Il fuit parce que Saül le poursuit. Pourtant, David a été oint par le Seigneur pour être roi. Il a été choisi. Et même Dieu avait rendu ce témoignage, « J'ai trouvé un homme selon mon cœur. » Et voilà que Jésus va se servir de ce roi selon le cœur du Seigneur. Il va, dans son histoire personnelle, dans une situation particulière, nous apporter un enseignement. David va fuir, il se retrouve dans une ville qui s'appelle Nod, et là, il n'a rien à manger avec les gens qui sont avec lui, il va voir le sacrificateur, il est connu, il est apprécié par tous, c'est le chef de l'armée de l'Éternel que Saül avait institué, et il lui dit, tu n'as rien à manger ? Et le sacrificateur va dire, je n'ai rien sinon ces pains de proposition, c'est-à-dire ces pains que toutes les semaines on mettait devant l'Éternel, qui représentaient les 12 tribus d'Israël, et qui étaient là pendant cette semaine devant Dieu, et puis le sabbat suivant, on changeait ces pains et on remettait des pains nouveaux. Il dit, j'ai ces pains, c'est déjà des pains qui étaient un petit peu, un peu durs quand même, un peu rassis. Et voilà, si vous êtes purs, vous pouvez les prendre. Et Jésus va se servir de cette histoire pour montrer que, malgré le fait que, normalement, ils n'avaient pas le droit de les manger, mais qu'il y avait là comme une nécessité, un besoin impérieux, quelque chose qui va prendre le pas. Et je vois une fois de plus à quel point le Seigneur va privilégier la miséricorde, le secours, la bonté, plutôt que des règles, des règlements, des choses qui sont là à couper tout en quatre. Parce que ce qui est important, c'est en fin de compte que David soit sauvé, parce que s'il était mort de faim, à ce moment-là, à quoi ça aurait servi qu'on l'ait oint ? Il y a dans la Bible plein de récits qui nous aident aussi dans notre vie de chaque jour. Parce qu'on va retrouver souvent dans ces, pour ne pas dire toujours, dans ces récits, la vie de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste parfois dans des gens qui... Peut-être on ne l'aurait pas fait, nous. Hein. Vous savez, quand on voit comment Dieu a béni Jacob, qui était un peu tordu sur les bords, et quand je dis sur les bords étaient larges. Hein. C'était un menteur, un trompeur, et pourtant Dieu l'a béni. Est-ce que ça veut dire qu'il va bénir les menteurs et les trompeurs ? Bien sûr que non. Mais comme le dira beaucoup plus tard, l'apôtre Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ne vous inquiétez pas, à un moment donné, Dieu a réglé ses comptes avec Jacob. Hein ? Oui, parce qu'à un moment donné, vous savez, quand le Seigneur nous rencontre face à face, il règle aussi ses comptes avec nous. Non pas pour nous perdre, non pas pour nous châtier, non pas pour nous détruire, mais pour nous sauver. Parce qu'il sait les chemins que nous avons empruntés, qui ne sont peut-être pas tout à fait justes. Et Dieu a eu parfois de la miséricorde et de la bonté à notre égard. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec nous. Mais ça veut dire qu'il nous aime. Et que, comme le dit la Bible, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Non pas à dire, voyez, Dieu me bénit, c'est que j'ai raison. Dieu me bénit, je vais continuer. Non, la bonté de Dieu te pousse à la repentance, à faire le point et à dire, oh, Seigneur, tu es tellement bon, je regrette de m'être engagé dans ce chemin-là, d'avoir eu ce comportement. Je veux changer par la grâce de Dieu. Change-moi, je ne vais pas mettre un bout de drap neuf à mon vieil habit. Change-moi, Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Amen. N'avez-vous pas lu ce que fit David ? Lorsqu'il fut dans la nécessité, c'est ce que je viens de vous dire, il va dire quelque chose qui est très important. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Tout ce que nous faisons, si nous le faisons, c'est que Dieu veut que l'on fasse. C'est d'abord pour nous. Hein. Vous savez, ce n'est pas pour lui qu'on le fait. Quand on fait ce qui est bien, on ne le fait pas pour le Seigneur, on le fait, c'est à nous que ça fait du bien. Et si on commet une faute et un péché, vous croyez que ça touche vraiment le Seigneur ? Oui, il est sur son trône. Qui sommes-nous, pauvres fourmis, pour inquiéter le Seigneur ? C'est à nous que nous faisons du mal. C'est nous que nous touchons. C'est nous que nous que nous perturbons. Et puis c'est nous qui, un jour ou l'autre, allons payer l'addition. Ce n'est pas le Seigneur. Lui, le Seigneur, il peut être peiné parce que nous sommes ses enfants et qu'on n'aime pas voir ses enfants s'égarer. Le sabbat, dira le Seigneur, et il est fait pour les hommes, parce que c'est quand même un truc extraordinaire. Dieu est obligé... Il est obligé de leur donner un jour de repos obligatoire. C'est fort. Non, vous ne trouvez pas ? Et vous lisez dans la Bible que continuellement, eh bien, les gens ont râlé. Ils ont râlé parce qu'on les obligeait à se reposer. C'est fort, ça, hein? On obligeait les femmes à se reposer. Ça devait faire râler peut-être un peu les hommes, j'en sais rien. Et même, on obligeait les esclaves à se reposer. On obligeait les animaux à se reposer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Une journée à se reposer. Il n'y a même pas la télé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer. Moi, je trouve ça complètement dingue. Dieu voulait, dans l'organisation de la société, qu'il y ait une journée de repos. Alors réfléchissez bien s'il y a une journée de repos pour vous, pour votre famille, parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Le sabbat, il a été fait pour l'homme, et pas l'homme pour le sabbat. Quand Dieu fait quelque chose pour les hommes, c'est pour eux, c'est pour leur bienfait. C'est pas pour lui qu'il le fait. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Osez dire qu'il est le maître du sabbat, c'est se faire Dieu lui-même. Non ? Qui est-ce qui avait institué le sabbat ? C'est bien Dieu. Dire qu'il est le maître du sabbat, c'est de dire qu'il est Dieu. On comprend que ça a grincé des dents. On comprend qu'ils n'étaient pas du tout prêts à écouter une chose pas. Pourtant, c'est vrai. Jésus est le maître de tout. Il est le Seigneur de toutes choses et pour tout. Gloire à Dieu. Et puis Jésus va terminer avec une question. Parce qu'il va entrer dans la synagogue et là il y a un homme malade. Et il y a beaucoup de monde dans cette synagogue ce jour-là. Parce qu'on veut voir si Jésus va oser guérir ce malade le jour du sabbat. Comme ils le diront un peu plus tard, il y a 6 jours pour se faire guérir. Quand même. Mais vous ne croyez pas que quand on est malade, le jour où ça va mieux et on est guéri, c'est pas du repos? Est-ce que vous ne croyez pas que le paralytique qui a marché le jour du sabbat, pour lui, c'était du repos? Le vrai repos? Parce qu'enfin, il était délivré de son infirmité. Parce qu'enfin, il pouvait être comme tout le monde. Quel repos! C'est ça le vrai repos du Seigneur, mes amis. Le repos du Seigneur, ce n'est pas une journée par semaine. C'est bien, gloire à Dieu, si on peut le faire. Et je crois qu'il le faut. Mais le vrai repos, c'est quand on va bien à l'intérieur, quand on va bien dans sa vie, quand on va bien dans sa famille, quand on va bien dans sa relation avec les autres. Parce que vous le savez tous, comme moi, si on est fâché avec quelqu'un, si on est en conflit avec quelqu'un, on peut avoir une semaine de vacances, on ne va pas se reposer parce que... Hein, là-haut, ça travaille, hein. Et vous savez que ça travaille même tellement qu'on sait aujourd'hui encore plus qu'avant que nos difficultés de vie, c'est-à-dire nos conflits, nos problèmes, ont des répercussions même sur le plan physique, où bon nombre de maladies se déclenchent. On sait aujourd'hui, et certains spécialistes le disent, que certains cancers se déclenchent après un choc psychologique, moral, très fort. Parfois après un divorce ou après un conflit familial. Il y a longtemps que la Bible dit ces choses-là. Il y a longtemps que la Bible nous dit que ce qui est au fond de notre cœur a des répercussions dans notre vie. Et ce que le Seigneur veut nous donner, c'est le vrai repos. Le repos du cœur. La Bible dit, il y a un repos, le sabbat, qui est réservé pour le peuple de Dieu. Amen. Et nous entrons dans ce repos. Le repos dont parle la Bible, ce n'est pas le repos éternel quand on sera mort. Parce qu'évidemment, là, c'est repos obligatoire. Mais c'est le repos du cœur, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Nous entrons dans la présence de Dieu qui nous donne le repos du cœur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as ce repos-là? Est-ce que tu vis les choses de Dieu? Ou simplement, c'est parce que c'est la tradition, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça et on fera toujours comme ça. Parce que les parents faisaient comme ça, on fait comme ça. Parce que c'est dans la famille. Mais qu'est-ce que tu vis de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu vis du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vis de ce que tu lis de la Bible? Dans ton cœur et dans ton âme, dans ta foi personnelle, qu'est-ce que tu vis? Et je ne voudrais pas que, si le Seigneur branchait quelques appareils sur notre âme, ce soit la ligne plate. Et puis rien au bout. L'encéphalogramme plat spirituel. J'espère que tous ce matin, on est venu parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on veut le rencontrer, parce qu'il a fait quelque chose dans notre vie, parce qu'il a fait de nous des hommes et des femmes changés, transformés, vivants par la grâce de Dieu. Amen. Et pas une bande de religieux, parce que je crois que ce serait la chose la plus triste au monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous avons besoin de toute ta grâce, de tout ton secours, de toute ta bonté. Merci d'être venu vers nous, non pas pour rajouter des préceptes, non pas pour mettre sur nous la charge d'une religion, mais Seigneur, pour le changement que tu as opéré en nous, pour la grâce que tu nous as donnée. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as donné la vie et nous sommes heureux de pouvoir te chanter, te louer, t'adorer, te bénir, chanter tes louanges. Gloire à Dieu, nous te louons Seigneur. À toi soit l'honneur, la gloire et la puissance dans le nom de Jésus. Oh, nous te remercions Seigneur, à toi la gloire. Amen. Amen. Et si quelqu'un ce matin dans son cœur ne peut pas dire « Moi, j'ai la vie de Dieu en moi », alors je voudrais l'inviter ce matin vraiment à ouvrir son cœur. Le Seigneur dit que la lumière, Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Es-tu un enfant de Dieu? Sens-tu le besoin que le Seigneur guérisse ton âme? C'est pour toi ce matin, par la grâce de Dieu. Amen.